Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne, troisième partie. J'ai vu hier Monsieur le doyen de Blangermont qui m'a très paternellement, mais très longuement aussi, entretenu de la nécessité pour un jeune prêtre de surveiller attentivement ses comptes. « Pas de dettes, surtout, je ne les admets pas », a-t-il conclu. J'étais un peu surpris, je l'avoue, et je me suis levé bêtement pour prendre congé. C'est lui qui m'a prié de me rasseoir. Il avait cru sans doute à un mouvement d'humeur. J'ai fini par comprendre que Madame Pamir se plaignait d'attendre encore le paiement de sa note, les bouteilles de quinquina. De plus, il paraît que je dois 53 francs au boucher Geoffrin et 118 au marchand de charbon de la Cour. Monsieur de la Cour est conseiller général. Ces messieurs n'ont d'ailleurs fait aucune réclamation et Monsieur le doyen a dû m'avouer qu'il tenait ses renseignements de Madame Pamir. Elle ne me pardonne pas de me fournir d'épicerie chez Camus, étranger au pays et dont la fille, dit-on, vient de divorcer. Mon supérieur est le premier à rire de ces potins qu'il juge ridicules, mais a montré quelque agacement lorsque j'ai manifesté l'intention de ne plus remettre les pieds chez M. Pamir. Il m'a rappelé des propos tenus par moi au cours d'une de nos conférences trimestrielles chez le curé de Verschoek, à laquelle il n'assistait pas. J'aurais parlé en termes qu'il estime beaucoup trop vifs du commerce et des commerçants. Mettez-vous bien dans la tête, mon enfant, que les paroles d'un jeune prêtre inexpérimenté comme vous seront toujours relevées par ses aînés, dont le devoir est de se former une opinion sur les nouveaux confrères. À votre âge, on ne se permet pas de boutades. Dans une petite société aussi fermée que la nôtre, ce contrôle réciproque est légitime, et il y aurait mauvais esprit à ne pas l'accepter de bon cœur. Certes, la probité commerciale n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était jadis. Nos meilleures familles témoignent en cette matière d'une négligence blâmable. Mais la terrible crise a ses rigueurs, avouons-le. J'ai connu un temps où cette modeste bourgeoisie travailleuse, épargnante, qui fait encore la richesse et la grandeur de notre cher pays, subissait presque tout entière l'influence de la mauvaise presse. Aujourd'hui, qu'elle sent le fruit de son travail menacé par les éléments de désordre, elle comprend que l'ère est passée des illusions généreuses, que la société n'a pas de plus solide appui que l'Église. Le droit de propriété n'est-il pas inscrit dans l'Évangile? Oh, sans doute, il y a des distinctions à faire, et dans le gouvernement des consciences, vous devez appeler l'attention sur les devoirs correspondants à ce droit. Néanmoins, mes petites misères physiques m'ont rendu horriblement nerveux. Je n'ai pu retenir les paroles qui me venaient aux lèvres, et, pis encore, je les ai prononcées d'une voix tremblante, dont l'accent m'a surpris moi-même. Il n'arrive pas souvent d'entendre au confessionnal un pénitent s'accuser de bénéfices illicites. Monsieur le doyen m'a regardé droit dans les yeux. J'ai soutenu son regard. Je pensais au curé de Torcy. De toute manière, l'indignation, même justifiée, reste un mouvement de l'âme trop suspect pour qu'un prêtre s'y abandonne. Et je sens aussi qu'il y a toujours quelque chose dans ma colère lorsqu'on me force à parler du riche, du vrai riche, du riche en esprit. Le seul riche n'eût-il en poche qu'un denier. L'homme d'argent, comme il l'appelle, un homme d'argent. Votre réflexion me surprend, a dit Monsieur le doyen de ton sec. J'y crois discerner quelque rancune, quelque aigreur. Mon enfant, a-t-il repris d'une voix plus douce, je crains que vos succès scolaires n'aient jadis un peu faussé votre jugement. Le séminaire n'est pas le monde. La vie au séminaire n'est pas la vie. Il faudrait sans doute bien peu de choses pour faire de vous un intellectuel, c'est-à-dire un révolté, un contenteur systématique des supériorités sociales qui ne sont point fondées sur l'esprit. Dieu nous préserve des réformateurs. Monsieur le doyen, beaucoup de saints l'ont été pourtant, Dieu nous préserve aussi des saints. Ne protestez pas, ce n'est d'ailleurs qu'une boutade, écoutez-moi d'abord. Vous savez parfaitement que l'Église n'élève sur ses autels, et le plus souvent longtemps après leur mort, qu'un très petit nombre de justes exceptionnels, dont l'enseignement et les héroïques exemples, passés au crible d'une enquête sévère, constituent le trésor commun des fidèles, bien qu'il ne leur soit nullement permis, remarquez-le, d'y puiser sans contrôle. Il s'ensuit, révérence gardée, que ces hommes admirables ressemblent à ces vins précieux, mais lents à se faire, qui coûtent tant de peine et de soins aux vignerons, pour ne réjouir que le palais de ses petits-neveux. Je plaisante, bien entendu. Cependant, vous remarquerez que Dieu semble prendre garde de multiplier chez nous, séculiers, parmi ses troupes régulières, si j'ose dire, les saints à prodiges et à miracles, les aventuriers surnaturels, qui font parfois trembler les cadres de la hiérarchie. Le curé d'Ars n'est-il pas une exception? La proportion n'est-elle pas insignifiante de cette vénérable multitude de clercs zélés, irréprochables, consacrant leurs forces aux charges écrasantes du ministère, à ces canonisés? Qui oserait cependant prétendre que la pratique des vertus héroïques soit le privilège des moines, voire de simples laïcs? Comprenez-vous maintenant que, dans un sens, et toute réserve faite sur le caractère un peu irrespectueux, paradoxal d'une telle boutade, j'ai pu dire « Dieu nous préserve des saints ». Trop souvent, ils ont été une épreuve pour l'Église avant d'en devenir la gloire. Et encore, je ne parle pas de ces saints ratés, incomplets, qui fourmillent autour des vrais, en sont comme la menue monnaie et comme les gros sous servent beaucoup moins qu'ils n'encombrent. Quel pasteur, quel évêque souhaiterait de commander à de telles troupes? Qu'ils aient l'esprit d'obéissance, soit, et après, quoi qu'ils fassent, leurs propos, leur attitude, leur silence même, risquent toujours d'être un scandale pour les médiocres, les faibles, les tièdes. Oh, je sais, vous allez me répondre que le Seigneur vaut mille tièdes. Quelles tièdes, au juste, nous l'ignorons? Sommes-nous sûrs de définir comme lui cette sorte de gens? Pas du tout. D'autre part, l'Église a des nécessités, lâchons le mot, elle a des nécessités d'argent. Ces besoins existent, vous devez l'admettre avec moi, alors inutile d'en rougir. L'Église possède un corps et une âme, il lui faut pourvoir aux besoins de son corps. Un homme raisonnable n'a pas honte de manger, voyons donc les choses telles qu'elles sont. Nous parlions tout à l'heure des commerçants. De qui l'État tire-t-il le plus clair de ses revenus? N'est-ce pas justement de cette petite bourgeoisie, âpre aux gains, dure aux pauvres, comme à elle-même, enragée à l'épargne? La société moderne est son œuvre. Certes, personne ne vous demande de transiger sur les principes, et le catéchisme d'aucun diocèse n'a rien changé, que je sache, au quatrième commandement. Mais pouvons-nous mettre le nez dans les livres de comptes? Plus ou moins dociles à nos leçons lorsqu'il s'agit, par exemple, des égarements de la chair, où leur sagesse mondaine voit un désordre, un gaspillage sans s'élever d'ailleurs beaucoup plus haut que la crainte du risque ou de la dépense. Ce qu'ils appellent les affaires semble à ces travailleurs un domaine réservé, où le travail sanctifie tout, car ils ont la religion du travail. Chacun pour soi, voilà leur règle. Et il ne dépend pas de nous, il faudra bien du temps, des siècles peut-être, pour éclairer ses consciences, détruire ce préjugé que le commerce est une sorte de guerre et qui se réclame des mêmes privilèges, des mêmes tolérances que l'autre. Un soldat sur le champ de bataille ne se considère pas comme un homicide. Pareillement, le même négociant qui tire de son travail un bénéfice usuraire ne se croit pas un voleur, car il se sait incapable de prendre 10 sous dans la poche d'autrui. Que voulez-vous, mon cher enfant? Les hommes sont les hommes. Si quelques-uns de ces marchands s'avisaient de suivre à la lettre les prescriptions de la théologie touchant le gain légitime, leur faillite serait certaine. Est-il désirable de rejeter ainsi dans la classe inférieure des citoyens laborieux qui ont eu tant de peine à s'élever? sont notre meilleure référence vis-à-vis d'une société matérialiste, prennent leur part des frais du culte et nous donnent aussi des prêtres depuis que le recrutement sacerdotal est presque tari dans nos villages. La grande industrie n'existe plus que de nom. Elle a été digérée par les banques, l'aristocratie se meurt, le prolétariat nous échappe, et vous iriez proposer aux classes moyennes de résoudre sur le champ, avec éclat, un problème de conscience dont la solution demande beaucoup de temps, de mesure, de tact. L'esclavage n'était-il pas une plus grande offense à la loi de Dieu? Et cependant, les apôtres... À votre âge, on a volontiers des jugements absolus. Méfiez-vous de ce travers. Ne donnez pas dans l'abstrait. Voyez les hommes. Et tenez justement cette famille Pamir. Elle pourrait servir d'exemple, d'illustration à la thèse que je viens d'exposer. Le grand-père était un simple ouvrier maçon, anticlérical notoire, socialiste même. Notre vénéré confrère de Bazancourt se souvient de l'avoir vu poser culotte sur le seuil de sa porte au passage d'une procession. Il a d'abord acheté un petit commerce de vin et liqueurs, assez malfamé. 2 ans plus tard, son fils, élevé au collège communal, est entré dans une bonne famille, les Delannoy, qui avait un neveu curé du côté de Brogelonne. La fille, débrouillarde, a ouvert une épicerie. Le vieux, naturellement, s'est occupé de la chose. On l'a vu courir les routes d'un bout de l'année à l'autre dans sa carriole. C'est lui qui a payé la pension de ses petits-enfants au collège diocésain de Montreuil. Ça le flattait de les voir camarades avec des nobles. Et d'ailleurs, il n'était plus socialiste depuis longtemps. Les employés le craignaient comme le feu. À 22 ans, Louis Pamir vient d'épouser la fille du notaire Delivaule, homme d'affaires de son excellence. Arsène s'occupe du magasin, Charles fait sa médecine à Lille, et le plus jeune, Adolphe, est au séminaire d'Arras. Oh, tout le monde sait parfaitement que si ces gens-là travaillent dur, ils ne sont pas faciles en affaires, qu'ils ont écumé le canton. Mais quoi, s'ils nous volent, ils nous respectent. Cela crée entre eux et nous une espèce de solidarité sociale, que l'on peut déplorer ou non, mais qui existe. Et tout ce qui existe doit être utilisé pour le bien. Il s'est arrêté un peu rouge. Je suis toujours assez mal une conversation de ce genre, car mon attention se fatigue vite lorsqu'une secrète sympathie ne me permet pas de devancer passionnément la pensée de mon interlocuteur et que je me laisse, comme disaient mes anciens professeurs, mettre à la traîne. Quelle est juste l'expression populaire « des paroles qui restent sur le cœur ». Celle-là faisait un bloc dans ma poitrine. Et je sentais que la prière seule restait capable de fondre cette espèce de glaçon. « Je vous ai parlé sans doute un peu rudement, » a repris M. le doyen de Blangermont. « C'est pour votre bien. Quand vous aurez beaucoup vécu, vous comprendrez. Mais il faut vivre. »« Il faut vivre. C'est affreux. » ai-je répondu sans réfléchir. « Vous ne trouvez pas ?» Je m'attendais à un éclat, car j'avais retrouvé ma voix des mauvais jours, une voix que je connais bien, la voix de ton père, disait maman. J'ai entendu l'autre jour un vagabond répondre au gendarme qui lui demandait ses papiers. « Des papiers ? Où voulez-vous que j'en prenne ? Je suis le fils du soldat inconnu. » Il avait un peu cette voix-là. Monsieur le doyen m'a seulement regardé longuement, d'un air attentif. « Je vous soupçonne d'être poète. » Il prononce « poète ». Avec vos 2 annexes, heureusement, le travail ne vous manque pas. Le travail arrangera tout. Hier au soir, le courage m'a manqué. J'aurais voulu donner une conclusion à cet entretien. À quoi bon? Évidemment, je dois tenir compte du caractère de monsieur le doyen, du visible plaisir qu'il prend à me contredire, à m'humilier. Il s'est signalé jadis par son zèle contre les jeunes prêtres démocrates, et sans doute il me croit l'un d'eux. Illusion bien excusable, en somme. C'est vrai que, par l'extrême modestie de mon origine, mon enfance misérable, abandonnée, la disproportion que je sens de plus en plus entre une éducation si négligée, grossière même, et une certaine sensibilité d'intelligence qui me fait deviner beaucoup de choses. J'appartiens à une espèce d'homme naturellement peu discipliné, dont mes supérieurs ont bien raison de se méfier. Que serais-je devenu si... Mon sentiment à l'égard de ce qu'on appelle la société reste d'ailleurs bien obscur. J'ai beau être le fils de pauvres gens, ou pour cette raison, qui sait, je ne comprends réellement que la supériorité de la race du sang. Si je l'avouais, on se moquerait de moi. Il me semble, par exemple, que j'aurais volontiers servi un vrai maître, un prince, un roi. On peut mettre ses deux mains jointes entre les mains d'un autre homme et lui jurer la fidélité du vassal. Mais l'idée ne viendrait à personne de procéder à cette cérémonie au pied d'un millionnaire, parce que millionnaire, ce serait idiot. La notion de richesse et celle de puissance ne peuvent encore se confondre. La première reste abstraite. Je sais bien qu'on aurait beau jeu de répondre que plus d'un seigneur a dû jadis son fief au sac d'écu d'un père usurier. Mais enfin, acquis ou non à la pointe de l'épée, c'est à la pointe de l'épée qu'il devait le défendre, comme il eût défendu sa propre vie. Car l'homme et le fief ne faisaient qu'un, au point de porter le même nom. N'est-ce point à ce signe mystérieux que se reconnaissaient les rois? Et le roi, dans nos saints livres, ne se distingue guère du juge. Certes, un millionnaire dispose, au fond de ses coffres, de plus de vie humaine qu'aucun monarque. Mais sa puissance est comme les idoles, sans oreilles et sans yeux. Il peut tuer, voilà tout, sans même savoir ce qu'il tue. Ce privilège est peut-être aussi celui des démons. Je me dis parfois que Satan, qui cherche à s'emparer de la pensée de Dieu, non seulement la hait sans la comprendre, mais la comprend à rebours. Il remonte à son insu le courant de la vie, au lieu de le descendre, et s'épuise en tentatives absurdes, effrayantes, pour refaire en sens contraire tout l'effort de la création. L'institutrice est venue me trouver ce matin à la sacristie. Nous avons parlé longuement de Mademoiselle Chantal. Il paraît que cette jeune fille s'aigrit de plus en plus, que sa présence au château est devenue impossible et qu'il conviendrait de la mettre en pension. Madame la comtesse ne paraît pas encore décidée à prendre une telle mesure. J'ai compris qu'on attendait de moi que j'intervinsse auprès d'elle, et je dois dîner au château la semaine prochaine. Évidemment, mademoiselle ne veut pas tout dire. Elle m'a plusieurs fois regardé droit dans les yeux avec une insistance gênante, ses lèvres tremblaient. Je l'ai reconduite jusqu'à la petite porte du cimetière. Sur le seuil, et d'une voix entrecoupée, rapide, comme on s'acquitte d'un aveu humiliant, d'une voix de confessionnal. Elle s'est excusée de faire appel à moi dans des circonstances si dangereuses, si délicates. Chantal est une nature passionnée, bizarre. Je ne la crois pas vicieuse. Les jeunes personnes de son âge ont presque toujours une imagination sans frein. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à vous mettre en garde contre une enfant que j'aime et que je plains, mais elle est fort capable d'une démarche inconsidérée. Nouveau venu dans cette paroisse, il restait inutile et dangereux de céder, le cas échéant, à votre générosité, à votre charité, de paraître ainsi provoquer des confidences qui... Monsieur le comte ne le supporterait pas, a-t-elle ajouté sur un ton qui m'a déplu. Certes, rien ne m'autorise à la soupçonner de parti pris, d'injustice, et quand je l'ai saluée le plus froidement que j'ai pu, sans lui tendre la main, elle avait des larmes dans les yeux. De vraies larmes. D'ailleurs, les manières de Mademoiselle Chantal ne me plaisent guère. Elle a dans ses traits la même fixité, la même dureté que je retrouve, hélas, sur le visage de beaucoup de jeunes paysannes, et dont le secret ne m'est pas encore connu, ne le sera sans doute jamais, car elle n'en laisse deviner que peu de choses, même au lit de mort. Les jeunes gens sont bien différents. Je ne crois pas trop aux confessions sacrilèges en un tel moment. Car les mourantes dont je parle manifestaient une contrition sincère de leur faute. Mais leur pauvre cher visage ne retrouvait qu'au-delà du sombre passage la sérénité de l'enfance, pourtant si proche. Ce je ne sais quoi de confiant, d'émerveillé, un sourire pur. Le démon de la luxure est un démon muet. N'importe, je ne puis m'empêcher de trouver la démarche de mademoiselle un peu suspecte. Il est clair que je manque beaucoup trop d'expérience, d'autorité, pour m'entremettre dans une affaire de famille si délicate, et on aurait sagement fait de me tenir à l'écart. Mais puisqu'on juge utile de m'y mêler, que signifie cette interdiction de juger par moi-même? Monsieur le comte ne le supporterait pas. C'est un mot de trop. Reçu hier une nouvelle lettre de mon ami. Un simple mot. Il me prie de vouloir bien retarder de quelques jours mon voyage à Lille, car il doit lui-même se rendre à Paris pour affaires. Il termine ainsi. « Tu as dû comprendre depuis longtemps que j'avais, comme on dit, quitté la soutane. Mon cœur, pourtant, n'a pas changé. Il s'est seulement ouvert à une conception plus humaine et par conséquent plus généreuse de la vie. Je gagne ma vie. C'est un grand mot, une grande chose. Gagner sa vie. L'habitude, prise dès le séminaire, de recevoir des supérieurs ainsi qu'une aumône, le pain quotidien ou la platée de haricots, fait de nous, jusqu'à la mort, des écoliers, des enfants. J'étais, comme tu l'es sans doute encore, absolument ignorant de ma valeur sociale. À peine aurais-je osé m'offrir pour la besogne la plus humble. Or, bien que ma mauvaise santé ne me permette pas toutes les démarches nécessaires, j'ai reçu beaucoup de propositions très flatteuses, et je n'aurai le moment venu qu'à choisir entre une demi-douzaine de situations extrêmement rémunératrices. Peut-être même à ta prochaine visite pourrais-je me donner le plaisir et la fierté de t'accueillir dans un intérieur convenable, notre logement étant jusqu'ici des plus modestes. Je sais bien que tout cela est surtout puéril, que je devrais hausser les épaules. Je ne peux pas. Il y a une certaine bêtise, un certain accent de bêtise, où je reconnais du premier coup avec une horrible humiliation l'orgueil sacerdotal. Mais dépouillé de tout caractère surnaturel, tourné en niaiserie, tourné comme une sauce tourne, comme nous sommes désarmés devant les hommes, la vie, quel absurde enfantillage! Et pourtant mon ancien camarade passait pour l'un des meilleurs élèves du séminaire, le mieux doué. Il ne manquait même pas d'une expérience précoce, un peu ironique des êtres, et il jugeait certains de nos professeurs avec assez de lucidité. Pourquoi tente-t-il aujourd'hui de m'en imposer par de pauvres fanfaronnades, desquelles je suppose d'ailleurs qu'il n'est pas dupe? Comme tant d'autres, il finira dans quelques bureaux, où son mauvais caractère, sa susceptibilité maladive, le rendront suspect à ses camarades, et quelque soin qu'il prenne à leur cacher le passé, je doute qu'il ait jamais beaucoup d'amis. Nous payons cher, très cher, la dignité surhumaine de notre vocation. Le ridicule est toujours si près du sublime, et le monde, si indulgent d'ordinaire au ridicule, est le nôtre d'instinct. La bêtise féminine est déjà bien irritante, la bêtise cléricale l'est plus encore que la bêtise féminine, dont elle semble d'ailleurs parfois le mystérieux surgeon. L'éloignement de tant de pauvres gens pour le prêtre, leur antipathie profonde, ne s'explique peut-être pas seulement, comme on voudrait nous le faire croire, par la révolte plus ou moins consciente des appétits contre la loi et ceux qui l'incarnent. À quoi bon le nier? Pour éprouver un sentiment de répulsion devant la laideur, il n'est pas nécessaire d'avoir une idée très claire du beau. Le prêtre médiocre est laid. Je ne parle pas du mauvais prêtre, ou plutôt, le mauvais prêtre est le prêtre médiocre. L'autre est un monstre. La monstruosité échappe à toute commune mesure. Qui peut savoir les desseins de Dieu sur un monstre? À quoi sert-il? Quelle est la signification surnaturelle d'une si étonnante disgrâce? J'ai beau faire, je ne puis croire, par exemple, que Judas appartienne au monde, à ce monde pour lequel Jésus a mystérieusement refusé sa prière. Judas n'est pas de ce monde-là. Je suis sûr que mon malheureux ami ne mérite pas le nom de mauvais prêtre. Je suppose même qu'il est sincèrement attaché à sa compagne, car je l'ai connu jadis sentimental. Le prêtre médiocre, hélas, l'est presque toujours. Peut-être le vice est-il moins dangereux pour nous qu'une certaine fadeur. Il y a des ramollissements du cerveau. Le ramollissement du cœur est pire. En revenant ce matin de mon annexe, à travers champs, j'ai aperçu Monsieur le Comte qui faisait quêter ses chiens le long du bois de Lignières. Il m'a salué de loin, mais ne semblait pas très désireux de me parler. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il a connu la démarche de mademoiselle. Je dois agir avec beaucoup de réserve, de prudence. Hier, confession, de 3 à 5, les enfants. J'ai commencé par les garçons, naturellement. Que notre Seigneur les aime, ces petits. Tout autre qu'un prêtre, à ma place, sommeillerait à leur monotone ronron, qui ressemble trop souvent à la simple récitation de phrases choisies dans l'examen de conscience et rabâchées chaque fois. S'ils voulaient voir clair, poser des questions au hasard, agir en simple curieux, je crois qu'ils n'échapperaient pas au dégoût. L'animalité paraît tellement à fleur de peau. Et pourtant, que savons-nous du péché? Les géologues nous apprennent que le sol qui nous semble si ferme, si stable, n'est réellement qu'une mince pellicule au-dessus d'un océan de feu liquide et toujours frémissante comme la peau qui se forme sur le lait, prêt à bouillir. Quelle épaisseur a le péché? À quelle profondeur faudrait-il creuser pour retrouver le gouffre d'azur? Je suis sérieusement malade. J'en ai eu hier la certitude soudaine et comme l'illumination. Le temps où j'ignorais cette douleur tenace qui cède parfois en apparence mais ne dessert jamais complètement sa prise, m'a paru tout à coup reculé dans un passé presque vertigineux, reculé jusqu'à l'enfance. Voilà juste 6 mois que j'ai ressenti les premières atteintes de ce mal, et je me souviens à peine de ces jours où je mangeais et buvais comme tout le monde. Mauvais signe. Cependant, les crises disparaissent. Il n'y a plus de crise. J'ai délibérément supprimé la viande, les légumes. Je me nourris de pain trempé dans le vin, pris en très petite quantité chaque fois que je me sens un peu étourdi. Le jeûne me réussit d'ailleurs très bien. Ma tête est libre et je me sens plus fort qu'il y a 3 semaines, beaucoup plus fort. Personne ne s'inquiète à présent de mes malaises. La vérité est que je commence à m'habituer moi-même à cette triste figure qui ne peut plus maigrir et qui garde cependant un air inexplicable de jeunesse, je n'ose pas dire de santé. À mon âge, un visage ne s'effondre pas, la peau tendue sur les os reste élastique, c'est toujours ça. Je relis ces lignes écrites hier soir. J'ai passé une bonne nuit, très reposante, je me sens plein de courage, d'espoir. C'est une réponse de la Providence à mes jérémiades, un reproche plein de douceur. J'ai souvent remarqué, ou cru saisir, cette imperceptible ironie, je ne trouve malheureusement pas d'autre mot. On dirait le haussement d'épaule d'une mère attentive au pas maladroit de son petit enfant. Ah, si nous savions prier! Madame la Comtesse ne répond plus à mon salut que par un hochement de tête très froid, très distant. J'ai vu aujourd'hui le docteur Delbande, un vieux médecin qui passe pour brutal et n'exerce plus guère, car ses collègues tournent volontiers en dérision ses culottes de velours et ses bottes toujours graissées qui dégagent une odeur de suif. Le curé de Torcy l'avait prévenu de ma visite. Il m'a fait étendre sur son divan et m'a longuement palpé l'estomac de ses longues mains qui n'étaient guère propres. En effet, il revenait de la chasse. Tandis qu'il m'auscultait, son grand chien, couché sur le seuil, suivait chacun de ses mouvements avec une attention extraordinaire, adorante. « Vous ne valez pas cher, » m'a-t-il dit. Rien qu'à voir ça, il avait l'air de prendre son chien à témoin. « Pas difficile de comprendre que vous n'avez pas toujours mangé votre sou, hein ?»« Jadis, peut-être, » ai-je répondu, « mais à présent... »« À présent, il est trop tard. » Et l'alcool, qu'est-ce que vous en faites de l'alcool? Oh, pas celui que vous avez bu, naturellement. Celui qu'on a bu pour vous, bien avant que vous ne veniez au monde. Revenez me voir dans 15 jours. Je vous donnerai un mot pour le professeur Lavigne, de Lille. Mon Dieu, je sais parfaitement que l'hérédité pèse lourd sur des épaules comme les miennes. Mais ce mot d'alcoolisme est dur à entendre. En me rhabillant, je me regardais dans la glace et mon triste visage, un peu plus jaune chaque jour, avec ce long nez, la double ride profonde qui descend jusqu'aux commissures des lèvres, la barbe rase mais dure, dont un mauvais rasoir ne peut venir à bout, m'a soudain paru hideux. Sans doute le docteur a-t-il surpris mon regard, car il s'est mis à rire. Le chien a répondu par des aboiements, puis par des sauts de joie. « Ah bah, Fox ! Ah bah, sale bête !» Finalement, nous sommes entrés dans la cuisine. Tout ce bruit m'avait rendu courage, je ne sais pourquoi. La haute cheminée, bourrée de fagots, flambait comme une meule. « Quand vous vous embêterez trop, vous viendrez faire un tour par ici. C'est une chose que je ne dirai pas à tout le monde. Mais le curé Torcy m'a parlé de vous, et vous avez des yeux qui me plaisent. Des yeux fidèles, des yeux de chien. Moi aussi j'ai des yeux de chien, c'est plutôt rare. Torcy, vous et moi, nous sommes de la même race, une drôle de race. » L'idée d'appartenir à la même race que ces deux hommes solides ne me serait jamais venue, sûrement. Et pourtant, j'ai compris qu'ils ne plaisantaient pas. « Quelle race ? » ai-je demandé. « Celle qui tient debout. Et pourquoi tient-elle debout ? Personne ne le sait, au juste. Vous allez me dire la grâce de Dieu ? Seulement moi, mon ami, je ne crois pas en Dieu. Attendez, pas la peine de me réciter votre petite leçon, je la connais par cœur. L'esprit souffle où il veut, j'appartiens à l'âme de l'Église. Des blagues. Pourquoi se tenir debout, plutôt qu'assis ou couché ? Remarquez que l'explication physiologique ne tient pas. Impossible de justifier par des faits l'hypothèse d'une espèce de prédisposition physique. Les athlètes sont généralement des citoyens paisibles, conformistes en diable, et ils ne reconnaissent que l'effort qui paie, pas le nôtre. Évidemment, vous avez inventé le paradis. Mais je disais l'autre jour à Torcy, « Conviens donc que tu tiendrais le coup avec ou sans paradis ?» D'ailleurs, entre nous, tout le monde y rentre dans votre paradis, hein ? Les ouvriers de la 11e heure, pas vrai ? Quand j'ai travaillé un coup de trop, je dis travailler un coup de trop, comme on dit boire un coup de trop, je me demande si nous ne sommes pas simplement des orgueilleux. Il avait beau rire bruyamment, son rire faisait mal à entendre, et on aurait pu croire que son chien pensait comme moi. Il avait interrompu tout à coup ses gambades, et, couché ventre contre terre, humblement, il levait vers son maître un regard calme, attentif, un regard qu'on eût dit détaché de tout, même de l'obscur espoir de comprendre une peine qui retentissait pourtant jusqu'au fond de ses entrailles, jusqu'à la dernière fibre de son pauvre corps de chien. Et la pointe du museau soigneusement posée sur ses pattes croisées, clignant des paupières, sa longue échine parcourue d'étranges frissons, il grognait doucement, ainsi qu'à l'approche de l'ennemi. « Je voudrais savoir d'abord ce que vous entendez par « tenir debout ».»« Ça serait long. Admettons, pour être court, que la station verticale ne convienne qu'aux puissants. Pour l'apprendre, un homme raisonnable attend qu'il ait la puissance ou son signe, le pouvoir, l'argent. Moi, je n'ai pas attendu. » En troisième, à l'occasion d'une retraite, le supérieur du collège de Montreuil nous a demandé de prendre une devise. Savez-vous celle que j'ai choisie ? Faire face. Face à quoi, je vous le demande ? Un gosse de 13 ans. Face à l'injustice, peut-être ? L'injustice ? Oui et non. Je ne suis pas de ces types qui n'ont que le mot de justice à la bouche. D'abord, parole d'honneur, je ne l'exige pas pour moi. À qui diable voulez-vous que je la demande, puisque je ne crois pas en Dieu ? Souffrir, l'injustice, c'est la condition de l'homme mortel. Tenez, depuis que mes confrères font courir le bruit que je n'ai aucune notion de l'asepsie, la clientèle a foutu le camp, et je ne soigne plus qu'un tas de péquenauds qui me payent d'une volaille ou d'un panier de pommes et me prennent d'ailleurs pour un idiot. En un sens, par rapport au Richard, ces bougres-là sont des victimes. « Eh bien, vous savez, l'abbé, je les fourre tous dans le même sac que leurs exploiteurs. Ils ne valent guère mieux. En attendant leur tour d'exploiter, ils me carottent. Seulement, il s'est gratté la tête en m'observant de biais, sans en avoir l'air. Mais j'ai bien remarqué qu'il a rougi. Cette rougeur sur ce vieux visage était belle. Seulement, autre chose est souffrir l'injustice. Autre chose, la subir. Ils la subissent, elle les dégrade, je ne peux pas voir ça. C'est un sentiment dont on n'est pas maître, hein? Quand je me trouve au chevet d'un pauvre diable qui ne veut pas mourir tranquille, le fait est rare, mais on l'observe de temps en temps. Ma sacrée nature reprend le dessus. J'ai envie de lui dire « Ôte-toi de là, imbécile, je vais te montrer comment on fait ça proprement. » L'orgueil, quoi. Toujours l'orgueil. En un sens, mon petit, je ne suis pas l'ami des pauvres. Je ne tiens pas au rôle de Terre-Neuve. Je préférerais qu'il se débrouille sans moi, qu'il se débrouille avec les puissants. Mais quoi? Ils gâchent le métier, ils me font honte. Notez bien que c'est un malheur de se sentir solidaire d'un tas de gens foutre qui, médicalement parlant, seraient plutôt des déchets. Question de race? Probable. Je suis celte. Celte de la tête aux pieds. Notre race est sacrificielle. La rage des causes perdues, quoi. Je pense, d'ailleurs, que l'humanité se partage en deux espèces distinctes, selon l'idée qu'on se forme de la justice. Pour les uns, elle est un équilibre, un compromis. Pour les autres, lui ai-je dit, la justice est comme l'épanouissement de la charité, son avènement triomphal. Le docteur me regardait un long moment avec un air de surprise, d'hésitation, très gênant pour moi. Je crois que la phrase lui avait déplu. Ce n'était qu'une phrase, en effet. Triomphale. Triomphale. Il est propre votre triomphe, mon garçon. Vous me répondrez que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. D'accord. Mais si on donnait un petit coup de pouce à l'horloge quand même, ce que je vous reproche à vous autres, ce n'est pas qu'il y ait encore des pauvres. Non. Et même je vous fais de la part belle. Je veux bien que la charge revienne à de vieilles bêtes comme moi de les nourrir, de les vêtir, de les soigner, de les torcher. Je ne vous pardonne pas, puisque vous en avez la garde, de nous les livrer si sales. Comprenez-vous? Après 20 siècles de christianisme, tonnerre de Dieu, il ne devrait plus y avoir de honte à être pauvre. Ou bien vous l'avez trahi, votre Christ. Je ne sors pas de là. Bon Dieu de bon Dieu, vous disposez de tout ce qu'il faut pour humilier le riche, le mettre au pas. Le riche a soif d'égards, et plus il est riche, plus il a soif. Quand vous n'auriez eu que le courage de les foutre au dernier rang, près du bénitier ou même sur le parvis, pourquoi pas, ça les aurait fait réfléchir. Ils auraient tous louché vers le banc des pauvres, je les connais. Partout ailleurs, les premiers. Ici, chez notre Seigneur, les derniers. Voyez-vous ça? Oh, je sais bien que la chose n'est pas commode. S'il est vrai que le pauvre est à l'image, à la ressemblance de Jésus, Jésus lui-même, c'est embêtant de le faire grimper au banc d'œuvre, de montrer à tout le monde une face dérisoire sur laquelle, depuis 2000 ans, vous n'avez pas encore trouvé le moyen d'essuyer des crachats. Car la question sociale est d'abord une question d'honneur. C'est l'injuste humiliation du pauvre qui fait les misérables. On ne vous demande pas d'engraisser des types qui, d'ailleurs, ont de père en fils perdu l'habitude d'engraisser, qui resteraient probablement maigres comme des coucous. Et même, on veut bien admettre, à la rigueur, pour des raisons de convenance, l'élimination des guignols, des fainéants, des ivrognes, enfin des phénomènes carrément compromettants. Reste qu'un pauvre, un vrai pauvre, un honnête pauvre, ira de lui-même se coller aux dernières places dans la maison du Seigneur, la sienne, et qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra jamais, un Suisse empanaché comme un corbillard, le venir chercher au fond de l'église pour l'amener dans le cœur avec les égards dus à un prince du sang chrétien. Cette idée-là fait ordinairement rigoler vos confrères. Futilité, vanité. Mais pourquoi diable prodigue-t-il de tels hommages aux puissants de la terre qui s'en régalent? Et s'ils les jugent ridicules, pourquoi les font-ils payer si cher? On rirait de nous, disent-ils. Un bougre en haillon dans le cœur, ça tournerait vite à la farce. Bon, seulement lorsque le bougre a définitivement changé de sa défroque contre une autre en bois de sapin, quand vous êtes sûr, absolument sûr, qu'il ne se mouchera plus dans ses doigts, qu'il ne crachera plus sur vos tapis, qu'est-ce que vous en faites du bougre? Allons donc. Je me moque de passer pour un imbécile. Je tiens le bon bout. Le pape ne m'en ferait pas démordre. Et ce que je dis, mon garçon, vos saints l'ont fait. Ça ne doit donc pas être si bête. À genoux devant le pauvre, l'infirme, le lépreux, voilà comme on les voit, vos saints. Drôle d'armée où les caporaux se contentent de donner en passant une petite tape d'amitié protectrice sur l'épaule de l'hôte royal, au pied duquel se prosternent les maréchaux. Il s'est tu, un peu gêné par mon silence. Certes, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je crois reconnaître du premier coup un certain accent, celui qui trahit une blessure profonde de l'âme. Peut-être d'autres que moi sauraient alors trouver le mot qu'il faut pour convaincre, apaiser. J'ignore ces mots-là. Une douleur vraie qui sort de l'homme appartient d'abord à Dieu, il me semble. J'essaie de la recevoir humblement dans mon cœur, telle qu'elle. Je m'efforce de l'y faire mienne, de l'aimer. Et je comprends tout le sens caché de l'expression devenue banale « communier avec ». Car il est vrai que cette douleur, je la communie. Le chien était venu poser la tête sur ses genoux. Depuis 2 jours, je me reproche de n'avoir pas répondu à cette espèce de réquisitoire, et pourtant, tout au fond de moi-même, je ne puis me donner tort. D'ailleurs, qu'aurais-je dit? Je ne suis pas l'ambassadeur du Dieu des philosophes? Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Et ce qui me serait venu aux lèvres, je le crains, n'eût été qu'une argumentation très forte, sans doute, mais si faible aussi, qu'elle m'a convaincu depuis longtemps, sans m'apaiser. Il n'est de paix que Jésus-Christ. La première partie de mon programme est en voie de réalisation. J'ai entrepris de visiter chaque famille une fois par trimestre au moins. Mes confrères qualifient volontiers ce projet d'extravagant, et il est vrai que l'engagement sera dur à tenir, car je dois avant tout ne négliger aucun de mes devoirs. Les gens qui prétendent nous juger de loin, du fond d'un bureau confortable, où ils refont chaque jour le même travail, ne peuvent guère se faire une idée du désordre, du décousu de notre vie quotidienne. À peine suffisons-nous à la besogne régulière, celle dont la stricte exécution fait dire à nos supérieurs « Voilà une paroisse bien tenue !» Reste l'imprévu, et l'imprévu n'est jamais négligeable. Suis-je là où notre Seigneur me veut? Question que je me pose 20 fois le jour, car le Maître que nous servons ne juge pas notre vie seulement, il la partage. Il l'assume. Nous aurions beaucoup moins de peine à contenter un Dieu géomètre et moraliste. J'ai annoncé ce matin, après la grand-messe, que les jeunes sportifs de la paroisse désireux de former une équipe pourraient se réunir au presbytère après les vêpres. Je n'ai d'ailleurs pas pris cette décision à l'étourdi. J'ai soigneusement pointé sur mes registres les noms des adhérents probables. 15, sans doute, au moins 10. Monsieur le curé de Tichan est intervenu auprès de monsieur le comte. C'est un vieil ami du château. Monsieur le comte n'a pas refusé le terrain. Il désire seulement le louer à l'année, 300 francs par an. Pour 5 ans. Au terme de ce bail, et sauf nouvel accord, il rentrerait en possession du dit terrain et les aménagements et constructions éventuelles deviendraient sa propriété. La vérité est qu'il ne croit probablement pas au succès de mon entreprise. Je suppose même qu'il souhaite me décourager par ce marchandage qui convient si peu à sa situation, à son caractère. Il a dit au curé de Tichan des paroles assez dures, que certaines bonnes volontés sont trop brouillonnes, étaient un danger pour tout le monde, qu'il n'était pas homme à prendre des engagements sur des projets en l'air, que je devais d'abord prouver le mouvement en marchant et qu'il fallait lui montrer le plus tôt possible ce qu'il appelle « mes jocrisses en chandail ». Je n'ai eu que 4 inscriptions, pas fameuses, J'ignorais qu'il existait une association sportive à Éclin, luxueusement dotée par le fabricant de chaussures, M. Vergne, qui fournit du travail à la population de 7 communes. Il est vrai qu'Éclin est à 12 kilomètres, mais les garçons du village font très facilement le trajet en bicyclette. Enfin, nous avons tout de même fini par échanger quelques idées intéressantes. Ces pauvres jeunes gens me paraissent être tenus à distance par des camarades plus grossiers, coureurs de balles et de filles. Comme le dit très bien Sulpice Mitonnet, le fils de mon ancien sonneur, l'estaminet fait mal et coûte cher. En attendant mieux, faute d'être en nombre suffisant, nous ne nous proposerons rien de plus que la constitution d'un modeste cercle d'études avec salle de jeu, de lecture, quelques revues. Sulpice Mitonnet n'avait jamais beaucoup attiré mon attention. De santé très chétive, il vient d'achever son service militaire, après avoir été ajourné 2 fois. Il exerce maintenant vaille que vaille son métier de peintre et passe pour paresseux. Je pense qu'il souffre surtout de la grossièreté du milieu où il doit vivre. Comme beaucoup de ses pareils, il rêve d'une place en ville car il a une belle écriture. Hélas, la grossièreté des grandes villes, pour être d'une autre espèce, ne me paraît pas moins redoutable. Elle est probablement plus sournoise, plus contagieuse. Une âme faible n'y échappe pas. Après le départ de ses camarades, nous avons parlé longuement. Son regard, un peu vague, même fuyant, a cette expression si émouvante pour moi des êtres voués à l'incompréhension, à la solitude. Il ressemble à celui de Mademoiselle. Madame Pégriot m'a prévenu hier qu'elle ne viendrait plus au presbytère. Elle aurait honte, dit-elle, d'être plus longuement payée pour un travail insignifiant. Il est vrai que mon régime plutôt frugal et l'état de ma lingerie lui font beaucoup de loisirs. D'autre part, ajoute-t-elle, il n'est pas dans ses idées de donner son temps pour rien. J'ai essayé de tourner la chose en plaisanterie, mais sans réussir à la faire sourire. Ses petits yeux clignaient de colère. J'éprouve malgré moi un dégoût presque insurmontable pour cette figure molle et ronde, ce front bas que tire vers le haut du crâne un maigre chignon et surtout pour son cou gras, strié de lignes horizontales et toujours luisant de sueur. On n'est pas maître de ces impressions-là, et je crains tellement de me trahir qu'elle doit voir clair en moi. Elle a fini par une allusion obscure à certaines personnes qu'elle ne tient pas à rencontrer ici. Que veut-elle dire? L'institutrice s'est présentée ce matin au confessionnal. Je sais qu'elle a pour directeur mon confrère Dechin, mais je ne pouvais refuser de l'entendre. Ceux qui croient que le sacrement nous permet d'entrer d'emblée dans le secret des âmes sont bien naïfs. Que ne pouvons-nous les prier de faire eux-mêmes l'expérience? Habitué jusqu'ici à mes petits pénitents du séminaire, je ne puis réussir encore à comprendre par quelle affreuse métamorphose les vies intérieures arrivent à ne donner d'elles-mêmes que cette espèce d'image schématique, indéchiffrable. Je crois que, passé l'adolescence, peu de chrétiens se rendent coupables de communion sacrilège. Il est si facile de ne pas se confesser du tout, mais il y a pis. Il y a cette lente cristallisation autour de la conscience de menus mensonges, de subterfuges, d'équivoques. La carapace garde vaguement la forme de ce qu'elle recouvre, c'est tout. À force d'habitude et avec le temps, les moins subtils finissent par se créer de toutes pièces un langage à eux qui reste incroyablement abstrait. Ils ne cachent pas grand-chose, mais leur sournoise franchise ressemble à ces vers dépolis qui ne laisse passer qu'une lumière diffuse où l'œil ne distingue rien. Que reste-t-il alors de l'aveu? À peine effleure-t-il la surface de la conscience? Je n'ose pas dire qu'elle se décompose par-dessous, elle se pétrifie plutôt. Nuit affreuse. Dès que je fermais les yeux, La tristesse s'emparait de moi. Je ne trouve malheureusement pas d'autre mot pour qualifier une défaillance qui ne peut se définir. Une véritable hémorragie de l'âme. Je m'éveillais brusquement avec dans l'oreille un grand cri. Mais est-ce encore ce mot-là qui convient? Évidemment non. Aussitôt surmonté l'engourdissement du sommeil, dès que je pouvais fixer ma pensée, le calme revenait en moi d'un seul coup. La contrainte que je m'impose habituellement pour dominer mes nerfs est sans doute beaucoup plus grande que je m'imagine. Cette idée m'est douce après l'agonie de ces dernières heures, car cet effort que je fais presque à mon insu, et dont par conséquent je ne puis tirer aucune satisfaction d'amour-propre, Dieu le mesure. Comme nous savons peu ce qu'est réellement une vie humaine, la nôtre. Nous juger sur ce que nous appelons nos actes est peut-être aussi vain que de nous juger sur nos rêves. Dieu choisit, selon sa justice, parmi ce tas de choses obscures, et celle qu'il élève vers le Père dans le geste de l'ostentation éclate tout à coup, resplendit comme un soleil. N'importe. J'étais si épuisé ce matin que j'aurais donné je ne sais quoi pour une parole humaine de compassion, de tendresse. J'ai pensé courir jusqu'à Torcy, mais j'avais justement, à 11 heures, le catéchisme des enfants. Même en bicyclette, je n'aurais pu revenir à temps. Mon meilleur élève est Sylvestre Galuchet, un petit garçon pas très propre, sa maman est morte, et il est élevé par une vieille grand-mère assez ivrogne, et pourtant d'une beauté très singulière, qui donne invinciblement l'impression presque déchirante de l'innocence. Une innocence d'avant le péché, une innocente pureté d'animal pur. Comme je distribuais mes bons points, il est venu chercher son image à la sacristie, et j'ai cru lire dans ses yeux calmes, attentifs, cette pitié que j'attendais. Mes bras se sont refermés un instant sur lui, et j'ai pleuré, la tête sur son épaule, bêtement. Première réunion officielle de notre cercle d'études. J'avais pensé donner la présidence à Sulpice Mitonnet, mais ses camarades semblent le tenir un peu à l'écart. Je n'ai pas cru devoir insister, naturellement. Nous n'avons fait d'ailleurs que mettre au point les quelques points d'un programme forcément très modeste, proportionné à nos ressources. Les pauvres enfants manquent évidemment d'imagination, d'entrain. Comme l'avouait Englebert Denisane, ils craignent de faire rire. J'ai l'impression qu'ils ne sont venus à moi que par désœuvrement, par ennui, pour voir. Rencontrer Monsieur le curé de Torcy sur la route de Dèvres. Il m'a ramené jusqu'au presbytère dans sa voiture, et même, il a bien voulu accepter de boire un verre de mon fameux Bordeaux. « Est-ce que vous le trouvez bon ?» m'a-t-il dit. J'ai répondu que je me contentais du gros vin acheté à l'épicerie des Quatre Tilleuls. Il a paru rassuré. J'ai eu l'impression très nette qu'il avait une idée en tête, mais qu'il était déjà décidé à la garder pour lui. Il m'écoutait d'un air distrait, tandis que son regard me posait malgré lui une question à laquelle j'aurais été bien en peine de répondre, puisqu'il refusait de la formuler. Comme d'habitude, lorsque je me sens intimidé, j'ai parlé un peu à tort et à travers. Il y a certains silences qui vous attirent, vous fascinent, on a envie de jeter n'importe quoi dedans, des paroles. « Tu es un drôle de corps, » m'a-t-il dit enfin. « Un plunigot, on n'en trouverait pas dans tout le diocèse, sûr. » Avec ça, tu travailles comme un cheval, tu te crèves. Il faut que Monseigneur ait vraiment grand besoin de curé pour te mettre une paroisse dans les mains. Heureusement que c'est solide, au fond, une paroisse. Tu risquerais de la casser. Je sentais bien qu'il le tournait en plaisanterie, par pitié pour moi, une manière de voir très réfléchie, très sincère. Il a lu cette pensée dans mes yeux. Je pourrais t'accabler de conseils. À quoi bon? Lorsque j'étais professeur de mathématiques au collège de Saint-Omer, j'ai connu des élèves étonnants qui finissaient par résoudre des problèmes très compliqués en dépit des règles d'usage, comme ça, par malice. Et puis quoi, mon petit? Ce n'est pas sous mes ordres. Il faut que je te laisse faire, donner ta mesure. On n'a pas le droit de fausser le jugement de tes supérieurs. Je te dirai mon système une autre fois. Quel système? Il n'a pas répondu directement. Vois-tu, les supérieurs ont raison de conseiller la prudence. Je suis moi-même prudent, faute de mieux. C'est ma nature. Rien de plus bête qu'un prêtre irréfléchi, qui jouerait les écervelés, pour rien, par genre. Mais tout de même, nos voies ne sont pas celles du monde. On ne propose pas la vérité aux hommes comme une police d'assurance ou un dépuratif. La vie est la vie. La vérité du bon Dieu, c'est la vie. Nous avons l'air de la porter. C'est elle qui nous porte, mon garçon. En quoi me suis-je trompé? Ai-je dit. Ma voix tremblait, j'ai dû m'y reprendre deux fois. Tu t'agites trop. Tu ressembles à un frelon dans une bouteille. Mais je crois que tu as l'esprit de prière. J'ai cru qu'il allait me conseiller de filer à Solesmes, de me faire moine. Et encore un coup, il a deviné ma pensée. Ça ne doit pas être très difficile d'ailleurs. Les moines sont plus finaux que nous. Tu n'as pas le sens pratique. Tes fameux projets ne tiennent pas debout. Quant à l'expérience des hommes, tiens, n'en parlons pas, ça vaut mieux. Tu prends le petit comte pour un seigneur, tes gosses de catéchisme pour des poètes dans ton genre, et ton doyen pour un socialiste. Bref, en face de ta paroisse toute neuve, tu m'as l'air de faire une drôle de mine. Sauf respect, tu ressembles à ces cornichons de jeunes maris qui se flattent d'étudier leur femme alors qu'elle a pris leur mesure en long et en large du premier coup. Alors, je pouvais à peine parler. J'étais confondu. Alors, eh bien, continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'as pas l'ombre d'amour-propre. Et il est difficile d'avoir une opinion sur tes expériences parce que tu les fais à fond. Tu t'engages. Naturellement, on n'a pas tort d'agir selon la prudence humaine. Souviens-toi de cette parole de Ruysbroeck l'admirable, flamand comme toi. Quand tu serais ravi en Dieu, si un malade te réclame une tasse de bouillon, descends du septième ciel et donne-lui ce qu'il demande. C'est un beau précepte, oui, mais il ne doit pas servir de prétexte à la paresse, car il y a une paresse surnaturelle qui vient avec l'âge, l'expérience, les déceptions. Ah, les vieux prêtres sont durs. La dernière des imprudences est la prudence. Lorsqu'elle nous prépare tout doucement à nous passer de Dieu, il y a de vieux prêtres effrayants. Je rapporte ces paroles comme je puis, plutôt mal, car je les écoutais à peine, je devinais tant de choses. Je n'ai aucune confiance en moi, et pourtant ma bonne volonté est si grande que j'imagine toujours qu'elle saute aux yeux, qu'on me jugera sur mes intentions. Quelle folie! Alors que je me croyais encore au seuil de ce petit monde, j'étais déjà entré bien avant, seul, et le chemin du retour fermé derrière moi, nulle retraite. Je ne connaissais pas ma paroisse, et elle feignait de m'ignorer. Mais l'image qu'elle se faisait de moi était déjà trop nette, trop précise. Je n'y saurais rien changer désormais qu'au prix d'immenses efforts. Monsieur le curé de Torcy a lu l'épouvante sur mon ridicule visage, et il a compris sûrement que toute tentative pour me rassurer eût été vaine à ce moment. Il s'est tu. Je me suis forcé à sourire. Je crois même que j'ai souri. C'était dur.
Mauvaise nuit. À 3 heures du matin, j'ai pris ma lanterne et je suis allé jusqu'à l'église. Impossible de trouver la clé de la petite porte, et il m'a fallu ouvrir le grand portail. Le grincement de la serrure a fait sous les voûtes un bruit immense. Je me suis endormi à mon banc, la tête entre mes mains, et si profondément qu'à l'aube, la pluie m'a réveillé. Elle passait à travers le vitrail brisé. En sortant du cimetière, j'ai rencontré Arsène Miron, que je ne distinguais pas très bien et qui m'a dit bonjour d'un ton goguenard. Je devais avoir un drôle d'air avec mes yeux encore gonflés de sommeil et ma soutane trempée. Je dois lutter sans cesse contre la tentation de courir jusqu'à Torcy. Hâte imbécile du joueur qui sait très bien qu'il a perdu, mais qui ne se lasse pas de l'entendre dire. Dans l'état nerveux où je suis, je ne pourrais d'ailleurs que me perdre en vaines excuses. À quoi bon parler de passé? L'avenir seul m'importe, et je ne me sens pas encore capable de le regarder en face. Monsieur le curé de Torcy pense probablement comme moi, sûrement même. Ce matin, tandis que j'accrochais les tentures pour les obsèques de Marie Perdreau, j'ai cru reconnaître son pas si ferme, un peu lourd sur les dalles. Ce n'était que le fossoyeur qui venait me dire que son travail était fini. La déception a failli me faire tomber de l'échelle. Oh non, je ne suis pas prêt. J'aurais dû dire au docteur Delbande que l'Église n'est pas seulement ce qu'il imagine, une espèce d'État souverain avec ses lois, ses fonctionnaires, ses armées, un moment si glorieux qu'on voudra de l'histoire des hommes. Elle marche à travers le temps comme une troupe de soldats à travers des pays inconnus, où tout ravitaillement normal est impossible. Elle vit sur les régimes et les sociétés successives, ainsi que la troupe sur l'habitant au jour le jour. Comment rendrait-elle aux pauvres, héritiers légitimes de Dieu, un royaume qui n'est pas de ce monde? Elle est à la recherche du pauvre. Elle l'appelle sur tous les chemins de la terre, et le pauvre, avec une majuscule, est toujours à la même place, à l'extrême pointe de la cime vertigineuse, en face du Seigneur des abîmes, qui lui répète inlassablement depuis 20 siècles d'une voix d'ange, de sa voix sublime, de sa prodigieuse voix. Tout cela est à vous, si vous prosternant, vous m'adorez. Telle est peut-être l'explication surnaturelle de l'extraordinaire résignation des multitudes. La puissance est à la portée de la main du pauvre, et le pauvre l'ignore, ou semble l'ignorer. Il étient ses yeux baissés vers la terre, et le séducteur attend de seconde en seconde le mot qui lui livrerait notre espèce, mais qui ne sortira jamais de la bouche auguste que Dieu lui-même a scellée. Problème insoluble. Rétablir le pauvre dans son droit sans l'établir dans la puissance. Et s'il arrivait par impossible qu'une dictature impitoyable, servie par une armée de fonctionnaires, d'experts, de statisticiens, s'appuyant eux-mêmes sur des millions de mouchards et de gendarmes, réussissait à tenir en respect sur tous les points du monde à la fois les intelligences carnassières, les bêtes féroces et rusées, faites pour le gain, la race d'homme qui vit de l'homme, car sa perpétuelle convoitise de l'argent n'est sans doute que la forme hypocrite ou peut-être inconsciente de l'horrible, de l'inavouable faim qui la dévore. Le dégoût viendrait vite de l'aurea mediocritas, ainsi érigée en règle universelle, et l'on verrait refleurir partout les pauvretés volontaires, ainsi qu'un nouveau printemps. Aucune société n'aura raison du pauvre. Les uns vivent de la sottise d'autrui, de sa vanité, de ses vices. Le pauvre, lui, vit de la charité. Quel mot sublime! Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, j'ai dû rêver. Vers 3 heures du matin, je venais de me faire chauffer un peu de vin et j'émiettais dedans mon pain comme d'habitude. La porte du jardin s'est mise à battre, et si violemment que j'ai dû descendre. Je l'ai trouvée close, ce qui, d'une certaine manière, ne m'a pas autrement surpris, car j'étais sûr de l'avoir fermée la veille, ainsi que chaque soir d'ailleurs. 20 minutes plus tard environ, elle s'est mise encore à battre, plus violemment que la première fois. Il faisait beaucoup de vent, une vraie tempête. C'est une ridicule histoire. J'ai recommencé mes visites, à la grâce de Dieu. Les remarques de monsieur le curé de Torcy m'ont rendu prudent. Je tâche de m'en tenir à un petit nombre de questions faites le plus discrètement que je puis, et, en apparence du moins, banale. Selon la réponse, je m'efforce de porter le débat un peu plus haut, pas trop, jusqu'à ce que nous rencontrions ensemble une vérité, choisie aussi humble que possible. Mais il n'y a pas de vérité moyenne. Quelques précautions que je prenne, et quand j'éviterai même de le prononcer des lèvres, le nom de Dieu semble rayonner tout à coup dans cet air épais, étouffant, et des visages qui s'ouvraient déjà se ferment. Il serait plus juste de dire qu'ils s'obscurcissent sans ténèbres. Oh, la révolte qui s'épuise d'elle-même en injures, en blasphèmes, cela n'est rien peut-être? La haine de Dieu me fait toujours penser à la possession. Alors le diable s'empara de lui, Judas. Oui, à la possession, à la folie. Au lieu qu'une certaine crainte sournoise du divin, cette fuite oblique le long de la vie, comme à l'ombre étroite d'un mur, tandis que la lumière ruisselle de toutes parts. Je pense aux bêtes misérables qui se traînent jusqu'à leur trou après avoir servi au jeu cruel des enfants. La curiosité féroce des démons, leur épouvantable sollicitude pour l'homme est tellement plus mystérieuse. Ah, si nous pouvions voir avec les yeux de l'ange ces créatures mutilées. Je vais beaucoup mieux, les crises s'espacent, et parfois il me semble ressentir quelque chose qui ressemble à l'appétit. En tout cas, je prépare maintenant mon repas sans dégoût, toujours le même menu, pain et vin. Seulement, j'ajoute au vin beaucoup de sucre et laisse rassir mon pain plusieurs jours jusqu'à ce qu'il soit très dur, si dur qu'il m'arrive de le briser plutôt que le couper. Le hachoir est très bon pour ça. Il est ainsi beaucoup plus facile à digérer. Grâce à ce régime, je viens à bout de mon travail sans trop de fatigue, et je commence même à reprendre un peu d'assurance. Peut-être irai-je vendredi chez M. le curé de Torcy. Sulpice Mitonnet vient me voir tous les jours. Pas très intelligent, certes, mais des délicatesses, des attentions. Je lui ai donné la clé du fournil, et il entre ici en mon absence, bricole un peu partout. Grâce à lui, ma pauvre maison change d'aspect. Le vin, dit-il, ne convient pas à son estomac, mais il se bourre de sucre. Il m'a dit, les larmes aux yeux, que son assiduité au presbytère lui valait beaucoup de rebuffades, de railleries. Je crois surtout que sa manière de vivre déconcerte nos paysans si laborieux, et je lui ai reproché sévèrement sa paresse. Il m'a promis de chercher du travail. Madame Dumouchel est venue me trouver à la sacristie. Elle me reproche d'avoir refusé sa fille à l'examen trimestriel. J'évite autant que possible de faire allusion dans ce journal à certaines épreuves de ma vie que je voudrais oublier sur le champ, car elles ne sont pas de celles, hélas, que je puisse supporter avec joie. Et qu'est-ce que la résignation sans la joie? Oh, je ne m'exagère pas leur importance, loin de là. Elles sont des plus communes, je le sais. La honte que j'en ressens, ce trouble dont je ne suis pas maître, ne me fait pas beaucoup d'honneur. Mais je ne puis surmonter la pression physique, la sorte de dégoût qu'elle me cause. À quoi bon le nier? J'ai vu trop tôt le vrai visage du vice. Et bien que je sente réellement au fond de moi une grande pitié pour ces pauvres âmes, l'image que je me fais malgré moi de leur malheur est presque intolérable. Bref, la luxure me fait peur. L'impureté des enfants, surtout, je la connais. Oh, je ne la prends pas non plus au tragique. Je pense au contraire que nous devons la supporter avec beaucoup de patience, car la moindre imprudence peut avoir, en cette matière, des conséquences effrayantes. Il est si difficile de distinguer des autres les blessures profondes, et même alors si périlleux de les sonder. Mieux vaut parfois les laisser se cicatriser d'elles-mêmes, on ne torture pas un abcès naissant. Mais ça ne m'empêche pas de détester cette conspiration universelle, ce parti pris de ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux, ce sourire niais et entendu des adultes en face de certaines détresses qu'on croit sans importance, parce qu'elles ne peuvent guère s'exprimer dans notre langage d'homme fait. J'ai connu aussi trop tôt la tristesse pour ne pas être révolté par la bêtise et l'injustice de tous à l'égard de celle des petits, si mystérieuse. L'expérience, hélas, nous démontre qu'il y a des désespoirs d'enfants. Et le démon de l'angoisse est essentiellement, je crois, un démon impur. Je n'ai donc pas parlé souvent de Séraphita du Mouchel. Mais elle ne m'en a pas moins donné depuis des semaines beaucoup de soucis. Il m'arrive de me demander si elle me hait, tant son adresse à me tourmenter paraît au-dessus de son âge. Les ridicules agaceries qui avaient autrefois un caractère de niaiserie, d'insouciance, semblent trahir maintenant une certaine application volontaire qui ne me permet pas de les mettre tout à fait au compte d'une curiosité maladive commune à beaucoup de ses pareils. D'abord, elle ne s'y livre jamais qu'en présence de ses petites compagnes, et elle affecte alors, à mon égard, un air de complicité, d'entente, qui m'a longtemps fait sourire, dont je commence à peine à sentir le péril. Lorsque je la rencontre par hasard sur la route, et je la rencontre un peu plus souvent qu'il ne faudrait, elle me salue posément, gravement, avec une simplicité parfaite. J'y ai été pris un jour. Elle m'a attendu sans bouger, les yeux baissés, tandis que j'avançais vers elle en lui parlant doucement. J'avais l'air d'un charmeur d'oiseau. Elle n'a pas fait un geste aussi longtemps qu'elle s'est trouvée hors de ma portée. Mais comme j'allais l'atteindre, sa tête était inclinée si bas vers la terre que je ne voyais plus que sa petite nuque têtue, rarement levée. Elle m'a échappé d'un bond, jetant dans le fossé sa gibecière. J'ai dû faire rapporter cette dernière par mon enfant de cœur, qu'on a très mal reçue. Madame du Mouchel s'est montrée polie. Sans doute, l'ignorance de sa fille justifierait assez la décision que j'ai prise. Mais ce ne serait qu'un prétexte. Séraphita est d'ailleurs trop intelligente pour ne pas se tirer avantageusement d'une seconde épreuve, et je ne dois pas courir le risque d'un démenti humiliant. Le plus discrètement possible, j'ai donc essayé de faire comprendre à Madame du Mouchel que son enfant me paraissait très avancé, très précoce, qu'il convenait de la tenir en observation quelques semaines. Elle rattraperait vite ce retard, et de toute manière la leçon porterait ses fruits. La pauvre femme m'a écouté rouge de colère. Je voyais la colère monter dans ses joues, dans ses yeux. L'ourlet de ses oreilles était pourpre. « La petite vaut bien autant que les autres, » a-t-elle dit enfin. « Ce qu'elle veut, c'est qu'on lui fasse son droit, ni plus ni moins. » J'ai répondu que Séraphita était une excellente élève, en effet, mais que sa conduite, ou du moins ses manières, ne me convenaient pas. « Quelles manières ?»« Un peu de coquetterie, » ai-je répondu. Ce mot l'a mise hors d'elle-même. « De la coquetterie ! De quoi que vous vous mêlez maintenant ? La coquetterie ne vous regarde pas, coquetterie ! C'est-il affaire d'un prêtre, à cette heure ? Sauf votre respect, monsieur le curé, je vous trouve bien jeune pour parler de ça, et avec une gosse encore. » Elle m'a quitté là-dessus. La petite l'attendait sagement sur un banc de l'église vide. Par la porte entrebâillée, j'apercevais les visages de ses compagnes, j'entendais leurs rires étouffés. Elle se bousculait sûrement pour voir. Séraphita s'est jetée dans les bras de sa mère en sanglotant. Je crains bien qu'elle ne joue à la comédie. Que faire? Les enfants ont un sens très vif du ridicule et ils savent parfaitement une situation donnée la développer jusqu'à ses dernières conséquences avec une logique surprenante. Ce duel imaginaire de leurs camarades et du curé, visiblement, les passionne. Au besoin qu'ils inventeraient pour que l'histoire fût plus séduisante, dura plus longtemps. Je me demande si je préparais mes leçons de catéchisme avec assez de soin. L'idée m'est venue ce soir que j'avais espéré trop, beaucoup trop, de ce qui n'est en somme qu'une obligation de mon ministère, et des plus ingrates, des plus rudes. Que suis-je pour demander des consolations à ces petits êtres? J'avais rêvé de leur parler à cœur ouvert, de partager avec eux mes peines, mes joies, oh, sans risquer de les blesser, bien entendu, de faire passer ma vie dans cet enseignement comme je la fais passer dans ma prière. Tout cela est égoïste. Je m'imposerai donc de donner beaucoup moins désormais à l'inspiration. Malheureusement, le temps me fait défaut. Il sera nécessaire de prendre encore un peu sur mes heures de repos. J'ai réussi cette nuit grâce à un repas supplémentaire que j'ai parfaitement digéré, moi qui regrettais jadis l'achat de ce bienfaisant Bordeaux.